Gab, le service d'envoi d'argent vers le guichet automatique pour un retrait sans carte, vous propose l'émission Appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Édouard Dupenoit.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, soyez les bienvenus. Appel sur l'actualité, on est ensemble jusqu'à 9h en temps universel pour parler ce matin du trafic de drogue, de ce que vous constatez au quotidien, là où vous êtes, des moyens qui pourraient être mis en œuvre pour combattre ces trafics. Est-ce qu'il faut donner davantage de budget aux forces de l'ordre? Je pense notamment aux douanes. Est-ce qu'il faut que les États voisins discutent davantage entre eux? Est-ce qu'il faut mettre l'accent sur la prévention chez les jeunes? Ou envisager ponctuellement, et pour certaines substances, des légalisations ou des dépénalisations de ces substances. Vos témoignages dans 30 minutes. Je vous redonne aussi le numéro WhatsApp de l'émission pour nous écrire. Le 33 6 89 28 53 64. Avant cela, et jusqu'à la prochaine édition du Journal Afrique, ce sont vos questions à la rédaction. Pour reparler du Soudan d'abord, question qui nous vient de Kindia, en Guinée. C'est Mamadou qui nous appelle. Bonjour Mamadou et bienvenue sur l'antenne d'RFI.
Cela fait un an que la guerre au Soudan débutait entre les deux généraux, Hamete et Al-Bouram. Alors, pour quelles raisons les différents cessez-le-feu n'ont-ils pas fonctionné?
On va commencer effectivement avec la première partie de cette question. Un peu plus d'un an de guerre, c'était le 15 avril 2023 que les deux généraux se déclaraient la guerre. Des cessez-le-feu, il y en a eu quelques-uns qui ont duré 24, 48, parfois 72 heures, jamais rien de durable. Pour répondre à cette question, Sébastien Némette, journaliste au service Afrique de RFI, est avec nous. Que peut-on répondre à Mamadou? Pour quelles raisons ces différents cessez-le-feu n'ont-ils jamais duré plus de quelques jours, Sébastien?
Bon, la première chose qu'il faut dire, c'est qu'il y a un manque de volonté des deux côtés, des belligérants. Les experts le savent, les observateurs le savent, la communauté internationale n'a cessé de le répéter. Il n'y a pas de solution militaire à ce conflit. Aucun camp n'a une force suffisamment écrasante pour balayer l'autre. Il y a aussi une multiplication des initiatives de paix qui crée parfois de la confusion, voire même de la concurrence entre elles. Alors il y a Jeddah en Arabie Saoudite sous le patronage des Américains et des Arabes qui ont eu des cessez-le-feu mais jamais respectés. Ça a été suspendu, ça a repris de nouveau suspendu. Bon, ça n'a pas fonctionné, ça pourrait reprendre. Bon, on verra. Il y a Takadoum qui est une organisation soudanaise de la société civile avec à sa tête Abdel Hamdok, l'ancien premier ministre. Ils ont rencontré Hemeti, mais Al-Bouran n'a pas du tout apprécié cela et il y a même une procédure judiciaire contre Hamdok qui risque la peine de mort. Il y a eu l'IGAD. On y a cru un moment. Djibouti avait annoncé une rencontre entre les deux généraux. Finalement, ça a capoté. Al-Bouran a même accusé l'IGAD d'être partial et il a gelé même ses relations avec l'autorité est-africaine. Bon, il y a eu des sommets, il y a eu des rencontres, mais les deux généraux n'ont jamais pu se voir face à face.
Cette première réponse à Mamadou, c'est de dire que voilà, ces premiers cessez-le-feu n'ont jamais fonctionné parce que les initiatives étaient totalement éclatées et parce que personne ne semblait y croire vraiment. Mamadou, il y avait une deuxième partie à votre question.
Une reprise des négociations entre les deux hommes.
Alors, une reprise des négociations, Sébastien Némette commençait à l'évoquer, peut-être des pourparlers à Jeddah. Tom Perriello, l'envoyé spécial américain sur le sujet, avait proposé il y a de cela plusieurs semaines la date du 18 avril, donc demain, mais les autorités djiboutiennes, et on l'entendait hier sur l'antenne de RFI, disaient Jeddah c'est bien, mais il faut privilégier le cadre Union africaine IGAD. Alors Sébastien, une rencontre et entre les deux hommes, est-ce que c'est envisageable?
Alors Jeddah, de toute façon là pour l'instant on n'a même plus de date, même si ça devait être des négociations élargies avec les différents pays qui soutiennent un camp ou l'autre, avec les organisations internationales. C'était une formule un peu nouvelle, mais voilà, pas de calendrier, pas de date, donc on attend de voir. Vous parliez de Tom Perriello. Voilà, il est très actif, le nouvel envoyé spécial américain. Peut-être qu'il arrivera à débloquer les choses. C'est une nouvelle vision, une nouvelle façon de travailler. On verra. Bon, mais on n'est pas très optimiste pour l'instant parce que, par exemple, l'armée est en pleine contre-attaque sur le terrain. Elle engrange quelques victoires. Elle a repris une grande partie d'Omdurman, la ville jumelle de Khartoum. Il y a des combats dans les faubourgs de la capitale. Et beaucoup d'experts s'attendent à une grande bataille à Khartoum. Et le gros problème, gros point noir, ce sont en fait les parrains des deux camps. On le sait, ça a été pointé dans différents rapports d'experts de l'ONU. Chaque camp a des soutiens. L'armée al-Burhan a le soutien de l'Égypte, par exemple. Les paramilitaires de Hemeti ont le soutien des Émirats. Il y a du trafic d'armes. Il y a une complaisance du Tchad qui laisserait passer ses armes, même si N'Djamena l'a toujours nié. Et ça, c'est un point crucial. Si ces parrains peuvent faire pression sur un camp et l'autre, menacer les uns et les autres de cesser leur soutien, ça pourrait débloquer les choses. Mais pour l'instant, on n'en prend pas vraiment le chemin.
Et on l'a entendu timidement avant-hier en conclusion de la conférence humanitaire qui était organisée à Paris, outre ces plus de 2 milliards de dollars qui ont été promis pour le Soudan, des appels à cesser toute ingérence étrangère. Mais de là à imaginer des négociations qui reprendraient, voire qui commencerait entre les deux hommes, on en semble bien loin. Merci beaucoup, Sébastien Nemeth. Mamadou, est-ce qu'on a répondu à vos questions ?
Parfaitement, et bonne journée à tous.
Bonne journée à vous, à Kindia, en Guinée, la Guinée d'où nous vient aussi la deuxième question de cette première partie d'appel sur l'actualité, à Conakry, la capitale. C'est Lama Bank qui nous a appelé. Bonjour et soyez le bienvenu.
Bonjour Edouard et bonjour à vos milliers d'auditeurs se trouvant en Guinée.
Vous aviez une question sur ce procès qui tient en haleine la Guinée, même plus généralement une bonne partie de la presse continentale depuis plusieurs mois, celui du massacre du stade du 28 septembre en 2009.
J'ai des inquiétudes. Lors de la confrontation des accusés au procès du 28 septembre 2009, Toumba et Marcel Guilavogui ont tous deux pointu le rôle de Dadis dans les massacres. Comment expliquer le rapprochement entre ces deux hommes, la première? Et la seconde, d'autres accusés qui ont comparu soutiennent-ils cette version?
Alors, pour vous répondre, on a appelé Mathias Reynal, correspondant de RFI à Conakry. Bonjour Mathias.
Bonjour Edouard, bonjour à tous.
Et merci d'être avec nous. Vous suivez ce procès au long cours depuis déjà plusieurs mois et vous en relatez les audiences sur notre antenne. Peut-être pour commencer à répondre à la question de Lama Bank, comment est-ce qu'on peut comprendre ce soutien que les accusés Marcel et Toumba ont semblé s'apporter mutuellement? C'était donc l'étape de la confrontation qui a commencé en début de semaine.
Oui, ce lundi, lors de la première confrontation, c'était très clairement visible. On avait Toumba, Marcel contre Dadis, un avocat des parties civiles, maître DSBA, avec qui j'ai pu m'entretenir, m'a dit toute sa déception face à ces confrontations qui finalement n'ont pas contribué à faire éclater la vérité. D'après lui, il est évident que Toumba et Marcel se sont concertés. Toumba a lui-même répété durant l'audience qu'il n'avait aucun problème avec Marcel, l'ancien aide de camp de Dadis, qui avait par le passé pointé du doigt le rôle de Marcel Guilavogui dans les violences du 28 septembre 2009, a cette fois atténué son témoignage le concernant. Pour mettre DSBA, une stratégie a été mise en place par les deux accusés pour se protéger l'un l'autre, pour essayer de se sauver mutuellement dans cette affaire, dit-il. Face au duo, il y a un groupe plus large constitué de Dadis, Goumou, Tiekboro. Il faudrait y ajouter Pivi, toujours en cavale. Les quatre qui se sont enfuis, vous vous en souvenez certainement, de la maison centrale en novembre dernier. Ils ont fait des déclarations qui allaient toutes dans le même sens et tendaient à nier la responsabilité de l'ancien président Moussa Dadis Camara dans le massacre du stade.
Pour comprendre vraiment ce qui s'est joué au moment du début de ces confrontations, il faut en fait remonter au deuxième passage de Marcel Guilavogui à la barre du tribunal.
Il avait été appelé à témoigner de nouveau en juillet 2023, des mois après avoir fait le récit de sa journée du 28 septembre 2009. Il change de version. Cette fois, Marcel annonce qu'il va dire la vérité. Dans un long récit, il reconnaît avoir été au stade, mais sans y avoir commis aucun crime. Il affirme que c'est Moussa Dadis Camara qui aurait ordonné le massacre des militants de l'opposition. Si Marcel avait protégé le chef lors de son premier passage, cette fois, il balance. C'est en tout cas ainsi que son témoignage est reçu par le camp de l'ancien président. Seuls Toumba et Marcel soutiennent une version qui met en cause directement l'ex-chef d'État.
Et quant aux avocats de Moussa Dadis Camara, il semble qu'ils n'aient pas tous assisté aux mêmes confrontations.
Oui, j'ai parlé à maître Pépé Antoine Lama, par exemple. Il a une vision totalement différente de ce qui s'est passé lundi. Pour lui, Dadis est sorti renforcé de sa confrontation avec Toumba et Marcel, qui, selon lui, n'ont rien dit de neuf. Ils sont restés fidèles à leur vision, assure-t-il, une version qui n'a pas résisté à l'argumentaire de son client. La vérité, c'est que Dadis n'était pas à son avantage face à deux personnes qui soutiennent une version concordante des faits, tout comme Tiekboro, qui l'a remplacé au milieu des deux autres accusés. Après, par la suite, l'ancien ministre chargé de la lutte contre la drogue est apparu pour la première fois gêné à la barre du tribunal de Dixine.
Lama Bank, vous aviez une dernière question sur la chronologie, le déroulement de ce procès.
Tout à fait. Quelles sont les étapes qui restent avant le jugement final ?
Mathias Reynal, c'est vrai que ça fait plusieurs mois que ce procès est ouvert. Où en est-on ? Quelle étape reste-t-il à franchir ?
Oui, un an et demi. On est un an et demi après l'ouverture du procès et on n'a jamais été aussi proche de sa fin. Après les confrontations, il restera les plaidoiries, puis les réquisitions et le verdict viendra couronner cette longue procédure. Il y a eu plusieurs retards, des reports inattendus par le passé qui ont rendu les observateurs un peu frileux lorsqu'il s'agit de se prononcer sur la durée du procès. Il y a ceux qui ne s'avancent pas trop, comme Pépé Antoine Lama. Maître Desba, lui, est catégorique. Le procès devrait se terminer avant les vacances judiciaires, c'est-à-dire le mois de juillet.
Mathias Reynal, correspondant de Radio France Internationale à Conakry. Lama Bank, j'espère que l'on a répondu à vos questions. Merci de nous avoir appelés. Conakry, où il est 8h21, on rejoint tout de suite le Burundi, Bujumbura, une heure de plus. C'est Philippe qui nous appelle maintenant. Bonjour Philippe.
Bonjour Edouard et bonjour à tous les auditeurs de la Radio France Internationale.
On écoute votre question.
Ok, depuis le début de l'année 2024, la France a augmenté son importation en gaz naturel russe liquéfié en provenance de la Russie. Comment expliquer cette hausse ?
On va commencer effectivement par cette question toute simple. Et pour vous répondre, c'est Fogving Nguyen qui nous répond ce matin que l'on a appelé. Bonjour monsieur, merci de nous accorder un peu de votre temps.
Bonjour.
Vous êtes chercheur sur les politiques de l'énergie européenne et française au sein du Centre Énergie de l'Institut Jacques Delors. Et Philippe a raison, effectivement, les importations de gaz naturel liquéfié en provenance de Russie ont considérablement augmenté en France au début de cette année, plus que toute autre importation vers un pays d'Europe par rapport à 2023. C'est ce que dit le rapport d'un think tank finlandais. Paris a versé 600 millions d'euros pour ces importations. Comment est-ce qu'on l'explique ?
Oui, tout à fait. 600 millions d'euros, donc c'est une augmentation de l'ordre de 75% des importations si on compare au premier trimestre de l'année passée. Et ça s'explique pour des raisons qui ont notamment, selon les membres du gouvernement, attrait à des questions de sécurité d'approvisionnement. C'est-à-dire qu'en réalité, désormais, on est dans une période où on va tenter de remplir nos stockages de gaz en prévision de l'hiver prochain. Et le remplissage de ces stockages de gaz s'effectue notamment au travers de l'importation de gaz naturel liquéfié russe. Et puis, il y a une autre explication qui consiste également à dire que la France, puisqu'elle possède des terminaux où elle peut importer ce gaz et ensuite le réexporter à d'autres voisins européens, des voisins situés plus à l'est, eh bien, va aussi servir de plateforme, on va dire, de transit pour ce gaz naturel liquéfié. Néanmoins, ce qu'il faut également mentionner, c'est que à l'heure actuelle, on est à des niveaux records de remplissage de stockage de gaz. Il existerait des alternatives pour pouvoir tenter d'éviter d'importer massivement ce gaz naturel liquéfié russe.
Alors, il me semble que l'un des arguments avancés aussi par les autorités et par certaines compagnies françaises, c'est de dire qu'elles sont liées par des contrats de long terme, des contrats qui obligent à acheter ce gaz, en tout cas à faire venir ce gaz, parce que de toute façon, les paiements auraient lieu, c'est ça ?
Tout à fait. Il y a une partie qui a été contractualisée et qu'il faut donc honorer. Néanmoins, on n'est pas dans une obligation d'augmenter nos importations. On peut faire le minimum syndical, entre guillemets, c'est-à-dire respecter le contrat, et ensuite également trouver un autre moyen pour tenter de se départir de ces obligations contractuelles. Désormais, le Parlement européen vient d'adopter une possibilité qui va voir les États membres être en capacité d'interdire unilatéralement les importations de gaz naturel liquéfié russe sur leur territoire. La question qui se pose, c'est est-ce que la France est prête à aller jusque-là pour pouvoir faire en sorte justement de se départir de ce contrat qui, à l'heure actuelle, tient les deux parties prenantes, à savoir la Russie et la France.
C'était un peu l'objet de la deuxième question de Philippe, parce que effectivement, il y avait une deuxième partie à votre interrogation.
Oui. Et pourquoi la France continue-t-elle à en acheter malgré les positions de plus en plus fermes de Macron contre la Russie ?
Parce qu'effectivement, on rappelle deux déclarations successives. Alors d'abord, celle de Clément Beaune quand il était secrétaire d'État aux affaires européennes, ouvrez les guillemets, en achetant du gaz russe, on finance la guerre de Vladimir Poutine. Ça, c'était en mars 2022. Et puis, beaucoup plus proche de nous, en mars 2024, il y a un mois, Emmanuel Macron, nous sommes prêts à prendre les décisions qu'il faut pour que la Russie ne gagne pas. Alors, comment est-ce qu'on peut continuer à expliquer et justifier ces achats, Fogving Nguyen ?
C'est vraiment une logique derrière qui sous-tend une question relative à la sécurité d'approvisionnement, c'est-à-dire faire en sorte d'avoir suffisamment de gaz. Ça va être l'argument phare mis en avant par le gouvernement. Néanmoins, on peut quand même trouver à la fois des alternatives à ce gaz naturel liquéfié russe, notamment en regardant du côté des États-Unis et du Qatar, et puis on peut aussi réfléchir à des moyens de réduire notre consommation de gaz. Puisque plus on réduit notre consommation de gaz, à ce moment-là, moins on aura besoin d'importer ce gaz naturel liquéfié russe. Et ça, ça passe par plusieurs choses, c'est par des mesures de sobriété énergétique, de changement de comportement, des mesures d'efficacité énergétique, par exemple de rénovation des bâtiments pour consommer moins de gaz pour se chauffer, ou encore de déploiement des énergies renouvelables pour tenter d'éviter de brûler du gaz pour produire de l'électricité.
Fulvin Guyenne, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de Philippe, notre auditeur qui nous appelle de Bujumbura au Burundi. Je rappelle que vous êtes chercheur sur les politiques de l'énergie européenne et française à l'Institut Jacques Delors au sein du Centre Énergie. David nous appelle maintenant de Lomé pour la dernière question. Bonjour David.
Bonjour Rafi.
On part de l'autre côté de l'Atlantique avec le premier procès au pénal d'un ancien président américain, en l'occurrence Donald Trump, qui vient de débuter. On écoute votre question.
Oui, le premier procès au pénal de Donald Trump vient de débuter. Quelles répercussions ce procès a-t-il sur sa campagne électorale ?
Simon Grivet est avec nous. On va commencer par la première partie de votre question, David. Et c'est Simon Grivet qui va y répondre, historien, maître de conférence à l'Université de Lille et spécialiste justement des États-Unis. Bonjour monsieur et merci de nous donner votre temps.
Bonjour. Alors en fait, la conséquence, elle est d'abord pratique, c'est-à-dire que Donald Trump doit être présent à la cour à New York tous les jours d'audience. Donc là, pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose parce que c'est la procédure qu'on appelle le voir dire. Donc on est en train de choisir les jurés pour le procès, mais ensuite on va rentrer dans le vif du débat à partir de la semaine prochaine. Et pendant 6 semaines, 4 jours par semaine, Trump doit être présent au tribunal, sauf autorisation spéciale du juge, qui ne veut pas lui donner. Par exemple, la semaine prochaine, il y a une affaire importante sur la question de l'immunité présidentielle qui doit être débattue devant la Cour suprême, et Trump voulait être présent à la Cour suprême, et le juge ne l'a pas autorisé. Donc ça, c'est un handicap sur la campagne, et Joe Biden, de l'autre côté, essaie d'en profiter. Hier, il était en campagne sur la fiscalité, je crois, dans sa ville natale de Scranton, Pennsylvanie, donc pour vraiment qu'il y ait un effet, ce que les Américains appellent le split screen, c'est-à-dire d'un côté, vous voyez Trump qui est dans son tribunal et qui s'agite en disant qu'il est victime d'un complot, et de l'autre côté, le président sortant qui fait campagne normalement. Donc ça, c'est, pour l'instant, c'est assez net comme contraste.
Premier effet concret, voilà, il est obligé de rester devant la cour, donc physiquement, géographiquement. Oui. Ça ne l'empêche pas, ni lui, ni ses équipes de campagne, d'ailleurs, d'essayer de capitaliser sur ce blocage.
Bien sûr, donc en se présentant comme victime, en disant que c'est une interférence, que c'est un complot de Biden et des démocrates, et de solliciter ses supporters pour lever des fonds, qui est un enjeu essentiel dans cette campagne. Une campagne présidentielle aux États-Unis, ça coûte très cher, près $1 milliard. Et pour l'instant, Trump et les Républicains sont en retard en termes de levée de fonds. Donc il y a beaucoup d'efforts qui sont déployés pour ça, en utilisant évidemment ces procès, en disant « Regardez, il faut m'aider, je dois payer mes avocats, etc. J'ai besoin de votre soutien. »
Voilà, David, pour répondre à la première partie de votre question, effet très concret, il est obligé de rester physiquement face à la cour, et il est obligé de s'en tenir aussi à une campagne médiatique pour dire qu'il est empêché de sillonner le pays. La deuxième partie de votre question, David, on vous écoute.
À l'issue du procès, Donald Trump pourrait-il être empêché de se présenter à la présidentielle de novembre prochain ?
Simon Grivet, y a-t-il un risque d'inéligibilité de l'ex-président ?
A priori non, le crime pour lequel il est poursuivi de fraude n'est pas lié à une question ne peut pas conduire à une inéligibilité, mais elle pourrait conduire à une peine de prison. Donc ça, ce serait tout à fait inédit. Effectivement, on a eu un seul candidat à la présidentielle en 1912, le candidat socialiste Eugene Debs, qui avait comparu en prison. Mais il y a une possibilité infime que Trump soit en prison au moment du vote. Ça, c'est possible, s'il était reconnu coupable, bien évidemment.
Parce que voilà, on rappelle qu'il y a 4 procès au pénal qui visent l'ancien président. Les autres procès dont le calendrier est encore un peu dans les limbes, pourraient-ils se tenir avant ? Est-ce qu'éventuellement, il y aurait une autre condamnation dans l'un des 3 autres procès qui pourrait conduire à cette inéligibilité ?
C'est difficile de répondre, ça paraît peu probable. En Géorgie, la procédure est un peu dans les limbes à cause des problèmes personnels de la procureure. Et les 2 procès au niveau fédéral sont très ralentis parce qu'il y en a une sur laquelle Trump et ses avocats ont levé la question de l'immunité présidentielle. Donc c'est débattu au niveau de la Cour suprême ce mois-ci.
Ce fameux rendez-vous dont vous expliquez qu'il souhaitait l'honorer pour une fois la semaine prochaine. Simon Grivet, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de David, notre auditeur qui nous appelait de Lomé, la capitale togolaise, où il est tout juste 8h30.